Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Et oui, on est déjà de retour pour bon une émission un petit peu spéciale. Vous vous doutez, un petit update de notre preview des Tours des Flandres, du Tour des Flandres que vous avez pu écouter déjà et qui est sorti mardi. On l'avait précisé pendant cette émission. On enregistre avant à travers les Flandres et voilà. Normalement, si il n'y a pas de cataclysme, on vous présente les favoris, notre scénario, blablabla. Blablabla, et bah pas de chance, cataclysme, il y a eu. Donc on se prend quelques minutes pour revoir un petit peu nos positions et puis actualiser tout ça pour que vous ayez bien sûr l'information la plus fraîche possible sur Radio Fringale. On essaie de s'appliquer à ça et pour m'accompagner ce soir pour voilà cette mise à jour de la preview du Tour des Flandres. C'est Titien qui m'accompagne. Salut Titien, comment vas-tu?
Salut Adri, ça va? Salut à tous. Bah ça va et en même temps un peu voilà un peu dégoûté par ce qui s'est passé hier sur à travers la Flandre. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé voir Mathieu Van Der Poel éclater et tout le monde avec la plus grosse adversité possible. Malheureusement bon, bah, voilà ils seront pas tous présents. C'est un peu dommage. C'est très triste hein, pour des coureurs comme Van Aert qu'on sacrifie énormément de choses dans ce début de saison. Mais voilà c'est la dure loi du sport, on va dire. Voilà, le sport, c'est on passe beaucoup de temps à l'entraînement, à faire le plus de choses possible pour être au top le jour J. Et parfois, ça fonctionne pas très bien. Et là, c'est ce qui s'est passé avec cette grosse chute. Donc voilà, un peu triste, mais ça reste le Tour des Flandres. Donc voilà, on va voir un peu comment ce que ça va être une nouvelle course. On va voir un peu lesquels des favoris outsiders sont out et lesquels sont encore là pour jouer la gagne et voir si ça change un petit peu les états d'esprit et les stratégies des équipes.
Ouais, moi je trouve que ça vient nous rappeler à quel point le sport et le cyclisme en particulier peuvent être cruels parfois. C'est sur des fractions de secondes où t'as une saison, voire une carrière qui peut se jouer. Et là, ben voilà, le fait que Van Aert soit là-dedans avec l'approche particulière qu'il avait eue cette saison, le fait de changer, de tenter de nouvelles choses pour espérer être au top uniquement sur ces deux monuments pavés et que là ça ne fonctionne pas, non pas à cause d'une préparation un peu foirée, mais à cause de ben d'un coup de malchance, il faut le dire, et d'une chute, et puis quand on tombe là, ça roulait extrêmement rapidement. On peut des fois se faire quelques égratignures ou alors se faire des fractures, et là c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus handicapant pour la suite. Donc ouais, moi vraiment, quand j'ai vu ça, pour rien de vous cacher, j'étais en train de faire une séance sur le home trainer parce qu'il faisait un temps horrible chez moi. Et en fait, j'étais scotché, quoi. J'en revenais pas et je me disais, oh, mais enfin, c'était dur de s'intéresser à la course après parce que ça mettait vraiment, ouais, ça mettait un coup. Et tu te dis, oh, bah déjà les gars, ils préparent à quel point ils s'appliquent à préparer les courses, et bah tout est foutu à cause de ça. Et puis je me suis dit, ouais, mais la course de dimanche, mais ça va être quoi du coup? Les principaux adversaires de Van Der Poel là sont bien amochés, donc ouais, bah en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, de voir un petit peu quels pourraient être les scénarios. Ce que je te propose, Titien, avant de partir là-dessus, c'est de faire un petit rappel des faits.
Ouais.
Donc voilà, on était sur à travers les Flandres. On allait attaquer à 67 km le Canaribergue où la Jumbo avait la volonté de mettre un gros coup de vis. On avait bien l'impression il remontait et ça roulait de plus en plus fort. Et là, à un moment, sur une partie où le peloton roulait extrêmement vite, Wout Van Aert touche apparemment la roue arrière de Tijs Benoot qui était juste devant lui, et c'est lui le premier à tomber, et s'ensuit une chute à l'avant du peloton, donc où les favoris forcément étaient placés à un moment stratégique de la course. Et là, ça a fait une énorme chute collective avec beaucoup de coureurs impliqués et beaucoup de coureurs aussi gravement blessés. Et donc, notamment, voilà, on a noté quatre coureurs de renom pris dans cette chute. Donc Wout Van Aert, qui lui, malheureusement, ça a été le plus touché. Donc il s'en sort avec une fracture de la clavicule et également plusieurs côtes cassées. Donc pas de Tour des Flandres, pas de Paris-Roubaix, pas d'Amstel Gold Race, trois courses qui étaient à son programme, et une énorme incertitude également sur sa participation au Giro, en tout cas, sa participation à 100% de ses capacités physiques semble un petit peu compromise, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Également impliqué dans cette chute, et c'est le deuxième plus gravement blessé dans les noms qu'on va vous citer, c'est Jasper Stuyven, qui s'est fracturé la clavicule. Il a quand même terminé deuxième du Grand Prix E3. Il avait l'air très très en forme, revenir à un super niveau. Pas de chance. Il était également placé dans les avant-postes et il est tombé. Fracture de la clavicule, donc pas de classique, pas de monument pavé pour lui non plus. Également impliqué Mats Pedersen, donc le leader de la Lidl Trek, un des grands favoris aussi pour les week-ends à venir. Alors lui, il s'en sort mieux parce qu'il n'y a pas de fracture, juste entre guillemets des contusions. Il a pu remonter sur son vélo, faire quelques kilomètres pour abandonner plus tard. Il n'est pas forfait pour le Tour des Flandres dimanche. On devrait le voir au départ. Par contre, dans quel état, forcément, un peu, voire beaucoup amoché, et à voir à quel point il peut peser sur la course. Et également un coureur, alors pas qui aurait peut-être pas pu viser la victoire comme les coureurs qu'on vient de citer, mais quand même qui avait une chance et qui a peut-être toujours une chance d'être dans le top 10, pourquoi pas, c'est Binyam Girmay, ancien vainqueur de Gent-Wevelgem, qui lui est tombé aussi lourdement, mais il s'en sort sans aucune fracture non plus, un petit peu comme Mats Pedersen, et il sera également lui au départ. Donc voilà, ensuite la course forcément a continué, et c'est Matteo Jorgensen qui s'est imposé sur cette dernière semi-classique belge avant le Tour des Flandres, qui du coup, c'est pas forcément de leur faute, mais ne s'est pas forcément fait une grande pub, et je sais pas si beaucoup de coureurs vont retourner sur cette course là l'année prochaine, dans les années à venir.
Non, c'est clair, en plus autant t'as une chute à l'E3 ou à Gent-Wevelgem, bon, t'as quand même une semaine avant le Tour des Flandres pour récupérer. Voilà, il y a toujours ces 7 jours où tu peux petit à petit le corps se remettre, mais là, il y a 4 jours, enfin 3 jours et demi entre le départ à la fin de à travers la Flandre et à travers les Flandres et le départ du Tour des Flandres. Donc non, clairement, la course va perdre gros, et à mon avis, il y aura pas beaucoup la start list l'année prochaine sera assez famélique en termes de favoris, j'imagine, parce que cette chute, elle va rester dans les annales. Et ouais, pour y revenir rapidement, moi, j'ai été très choqué, en fait, parce que d'une, par la violence de la chute, et de deux, c'est quand même très très rare ces chutes massives où en fait c'est que des cadors dans la chute, quoi. Enfin, et là, là clairement, on avait fait la preview juste avant, on l'avait sorti le mardi. On avait donné quoi comme nom pour battre Van Der Poel, Van Aert, Pedersen, Stuyven, c'était finalement les Jorgensen, et parmi ces quatre noms qu'on a donné comme principaux rivaux de Mathieu Van Der Poel qui pouvaient le mettre à mal, t'en as trois qui ont chuté, dont deux très lourdement et qui seront pas au départ du ronde, et puis le dernier qui sera là mais forcément diminué. Donc ouais, j'ai été hyper choqué sur le coup. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. En plus, t'as les images en pleurs de Van Aert. Enfin, ça m'a fait beaucoup de peine. Vraiment, je me suis senti un peu choqué, un peu dans une sorte de je sais pas, je me suis senti bizarre ensuite tout le reste de la, enfin, la course est un peu passée au second plan. J'ai vraiment eu du mal à me remettre devant et à trouver un peu de l'intérêt, parce que forcément, enfin, tu penses à la course de dimanche et tu te dis, ouais, mais ça va être quoi? Mais est-ce qu'ils vont pas la décaler finalement? Alors que bon, au fond de moi, je sais très bien qu'on décale pas un Tour des Flandres comme ça 3 jours avant, et que c'est le jeu, et voilà, il y a des coureurs qui tombent,
c'est le jeu. Ça fait partie du vélo, et que ça,
dans ma tête, on se dit, mais non, c'est injuste. Déjà, l'année dernière, sur Liège-Bastogne-Liège, on est privé du duel Pogacar et Evenepoel, sur Paris-Roubaix, Van Aert crève et on est privé du duel, et cette année, on est encore privé d'un combat entre les tout meilleurs. Enfin, en tout cas, voilà, il y en aura un des grands favoris qui est un des trois grands favoris, qui est Wout Van Aert, qui sera pas présent, et puis un des très gros outsiders, Stuyven, qui est pas présent. Et forcément, à la fois, ça amoindrit un peu la qualité de la start list, qui sera quand même exceptionnelle, évidemment. Et puis également, je pense qu'on va en parler après, ça va avoir un gros impact sur les stratégies d'équipe qui pourront mettre en place, que ce soit chez Visma, Lise Bike ou Lidl Trek. Donc quand même un énorme coup de tonnerre, cette chute à 72 heures du départ du ronde.
Ouais, c'est vrai que ça le fait à chaque fois quand il y a des gros leaders qui sont impliqués dans les chutes, mais j'ai aussi l'impression que finalement après on oublie assez vite, et que on s'en souvient forcément, mais moi j'ai quelques souvenirs, notamment sur les grands tours, ça arrive très souvent qu'il y a des favoris qui tombent et puis qui abandonnent. Voilà, bah, ou par exemple le coup du Giro l'année dernière où Evenepoel, bah, lui, il est pas tombé, mais c'est Covid et bam, du jour au lendemain, il est maillot rose. Il y avait un duel qui se profilait avec Roglic et puis bah la course change. Et il y a aussi enfin moi je me souviens du Tour de France 2014 où Nibali s'impose et il y avait quand même Contador et Froome au départ et les deux sont tombés, les deux ont abandonné en cours de route et finalement maintenant quand on parle Tour de France 2014 c'est ouais podium Perrault Pinot et tout ça mais voilà il y avait des enfin c'est ça moi je trouve que ça fait partie aussi du cyclisme, malheureusement, on sait à quel point les chutes font partie de ces courses. Donc, on va essayer de faire avec. En tout cas, il va falloir faire avec. Mais par rapport à ça, la question du coup que j'ai envie de te poser, Titien, c'est est-ce que sans Van Aert, sans Stuyven, avec un Pedersen diminué et un Mathieu Van Der Poel qui était déjà ultra favori, qu'il est encore beaucoup plus, est-ce que on va avoir un Tour des Flandres sans saveur, un Tour des Flandres morose avec Van Der Poel qui décide d'attaquer à 80 km de l'arrivée et plus personne pour le suivre et merci, au revoir.
Bon, je vais faire une réponse un peu bête, mais je vais dire oui et non. Oui, forcément, parce que en fait, rien que l'absence de Van Aert, cette rivalité historique qu'il a avec Van Der Poel, enfin, c'est ce qui fait un peu le charme de ces classiques. C'est ce duel entre ces deux immenses champions. Et en plus, on avait envie de savoir ce qu'allait donner la préparation de Van Aert, si ça allait porter ses fruits. Ben, on le saura jamais. Il y a tout ça. Il y a cette absence de duel entre les deux cadors. L'absence de Stuyven également change beaucoup la course parce qu'à mon avis c'était vraiment le coureur qui était à la fois en second rideau mais qui pouvait peut-être faire le plus mal à un Mathieu Van Der Poel, enfin en tout cas générer des stratégies d'équipe s'il partait à l'avant. Donc oui ça va changer beaucoup de choses parce que enfin tu vois un Matteo Jorgensen qui est très très fort hein, après remporter Paris-Nice il remporte à travers les Flandres. Lui aussi il aurait pu avoir ce rôle de dynamiter la course de loin, de rendre la course difficile à Mathieu Van Der Poel, tandis que Van Aert pouvait lui rester dans la roue de Van Der Poel et mettre en difficulté les Néerlandais et peut-être l'attaquer sur la fin. Bah Jorgensen, il va passer, je pense, grand leader de l'équipe Visma Lease the Bike. Il a jamais fait podium sur le Tour des Flandres. Je doute que Jorgensen il prenne des gros risques tout seul à 80 km de l'arrivée pour partir. Et alors que s'il sait qu'il joue avec les meilleurs, peut-être qu'à une deuxième ou une troisième place, lui tend les bras et je pense qu'il sera déjà très content. Donc oui, là-dessus, ça change beaucoup. La course, puisque la Lidl Trek également, qui était l'équipe la plus offensive, sans Stuyven, avec un Alex Kirsch qui est tombé, enfin voilà, Mats Pedersen qui va être diminué, Jonathan Milan, il sera là, mais le Tour des Flandres, ça va être un petit peu difficile pour lui. Donc, l'absence de Stuyven et puis le fait que Pedersen et Kirsch soient diminués, forcément, ça va peut-être enlever les. Enfin, on va pas se dire, tiens, on va durcir la course de loin parce que finalement, Mads, oulala, il faut plutôt une course tranquille pour lui parce qu'il est encore tout courbaturé après sa chute et du coup, on va essayer de l'amener le plus loin possible pour qu'il fasse une place d'honneur au sprint. Donc, enfin voilà, tout ça fait que si on part dans cette optique-là, forcément, ça n'a pas la même saveur. Pas les mêmes grands noms, etc., qui seront au départ. Après, moi, je pense quand même que... Alors, d'une, ça peut permettre à des coureurs qu'on attend moins de se révéler, et ça peut être vraiment sympa. On peut... il y a des coureurs qui auraient peut-être été en second rideau, qui vont peut-être se dire, c'est la chance de ma vie d'accrocher un podium sur le ronde, et je vais tout donner, je vais peut-être attaquer, je vais peut-être tout tenter, je ne sais pas. Et puis là, pour le coup, ça renforce l'image de Alpecin de Koenig contre le reste du monde. C'est-à-dire que Mathieu Van Der Poel, déjà que c'était le grand favori, on va pas se le cacher, et que dans tous les cas, même avec un Van Aert ou un Pedersen, c'est ce qu'on s'était dit, Van Der Poel, il va être, s'il met une cacahuète, il peut très bien lâcher tout le monde et bonjour, au revoir. Donc ça va être encore pire maintenant. Il a vraiment cette pancarte, tout autre résultat que la victoire pour Mathieu Van Der Poel, ça sera une immense désillusion. Est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui vont se liguer contre lui? Est-ce qu'ils vont pas laisser le poids de la course seul à Alpecin de Koenig? Enfin voilà. Est-ce que ça peut pas ouvrir la course? Est-ce que finalement la Visma Lease the Bike aurait pas cadenassé la course pour Van Aert parce que Van Aert il mise toute sa saison sur ces deux courses? Donc on ne sait pas. Toujours est-il que Van Der Poel là c'est vraiment l'homme à abattre et peut-être que ça peut jouer contre l'équipe Alpecin de Koenig qui peut rapidement se trouver isolé et ça peut profiter à une course de mouvement. Enfin voilà, dans tous les cas je pense qu'il faut même si bien sûr forcément ça a moins de saveur qu'avec les grands noms, avec les Wout Van Aert, Mats Pedersen au top, etc. Mais on va essayer d'aller chercher le positif et le ronde, ça reste le ronde, ça va être une super course. Et puis je pense que toi comme moi, on sera évidemment dès le début de la course devant notre écran pour regarder ça Et on voilà, si on va peut-être assister malgré tout à une magnifique course et peut-être qu'aussi que Van Der Poel va exploser la concurrence, mais il l'aurait peut-être fait dans le scénario 1 aussi. Donc voilà, forcément la hype est un peu retombée, mais ça reste le Tour des Flandres et voilà, il faut voir le positif. On va peut-être voir quelque chose, une course à laquelle on s'attend pas. Et donc bah écoute, moi je reste assez optimiste et assez enfin pressé d'être à dimanche pour voir la course. Je sais pas ce que t'en penses toi.
Bah, écoute, moi, ce que je pense, c'est que ça va. Bah déjà, ça crée de la frustration à l'heure actuelle, mais je sais pas si forcément ça va en créer pendant la course. À mon avis, on va pas passer notre temps pendant 7 heures à se dire oh là là, si Van Aert il avait été là, il aurait fait ça. Et puis si Pedersen il n'était pas tombé et tout ça, c'est frustrant maintenant. Ça, c'est parce que ça vient d'arriver, mais après, ce sera le départ du Tour des Flandres. Ça reste un monument, l'une des deux, trois courses les plus attendues de l'année, donc ça ne nous empêchera pas de savourer notre moment et notre monument forcément. Et je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu as dit à la fin là sur le fait que ça pourrait permettre à des coureurs de tenter beaucoup plus et puis de se lancer aussi dans des grandes envergures pour déstabiliser l'équipe Alpecin qui là forcément fait figure de grande favorite. Donc il va falloir maîtriser la course de bout en bout et voir une énorme échappée dès le début avec déjà des coureurs. Alors peut-être pas, je pense pas que Jurgensen fasse tout de suite une offensive d'envergure, mais voilà, pourquoi pas des coureurs comme par exemple les Soudal Quick-Step. On peut pas dire qu'ils aient la pancarte en ce moment, ça reste quand même des coureurs de renom et pourquoi pas ça va peut-être les libérer un petit peu. Donc ouais, je pense que ça peut débrider la course dans un sens et voilà, comme je l'ai dit, après, ça remet de la pression sur Mathieu Van Der Poel aussi. Ça va, lui, alors on sait qu'en général, il n'a pas trop de problèmes à gérer la pression et qu'il sait très très bien faire. Mais clairement, je pense pas que de toute façon, tous ses adversaires, ils partent battus. Et des fois, le fait de partir battu, eh ben, ça te libère d'un poids, ça te permet de courir un petit peu plus librement. Après, le problème, c'est que ça tombe aussi sur la course où il faut être en général le plus fort pour pouvoir l'emporter. Et quand on a vu le genre de démonstration que Van Der Poel a fait à l'E3, ben voilà, ça laisse que peu de chance. Et moi, par rapport au scénario, du coup, par rapport à Van Der Poel, alors je vais t'exposer un petit peu ce que je vois, moi, et puis tu me diras ce que tu en penses, Titien. Je pense que ça va encourager Van Der Poel à prendre la course en main beaucoup plus tôt et en gros, à très rapidement faire comprendre à tout le monde qu'il n'y aura pas moyen et que Van Aert, pas Van Aert, machin, Alpecin qui doit contrôler la course ultra favorite, ça changera rien et que ça va pour moi, ça va forcément l'encourager à attaquer de beaucoup plus loin pour à la limite dégoûter ses adversaires et qu'ils se rendent très vite compte qu'ils vont jouer la deuxième place. Il y en a pas beaucoup non plus qui ont des victoires ou des podiums sur les monuments. Alors il y en a un petit peu, mais je pense que la plupart de ses adversaires seront très contents de faire deuxième ou troisième. Et à mon avis, il va se servir de ça pour lancer vraiment l'offensive de très loin, un peu comme Pogacar l'a fait sur les Strade Bianche, où bah voilà, il a posé sa grosse attaque de loin. Tout le monde savait qu'il était ultra favori. Il a vite montré qu'il était une jambe au-dessus de tout le monde. Et merci, au revoir. Alors ça, oui, désolé pour le suspense. Ce sera pas forcément le meilleur scénario. Encore que si on nous montre la bagarre pour la deuxième et troisième place, ça peut donner lieu à une course sympa. Mais moi, je vois bien un scénario comme ça. En tout cas, je vois bien Mathieu Van Der Poel s'adapter comme ça à cette nouvelle physionomie de course, cette nouvelle start list.
Ouais, je suis un peu d'accord en fait, dans le sens où effectivement, en fait, il y a beaucoup de coureurs ici qui vont être très contents. Enfin, tu vois, je parlais de Matteo Jurgensen, mais effectivement, Jurgensen, s'il fait deuxième du Tour des Flandres, je pense qu'il sera pleinement satisfait. Hein. Derrière Mathieu Van Der Poel, qui plus est, lui qui a encore jamais fait de podium sur un monument. L'année dernière, il était là dans le final, mais voilà, enfin, très
Neuvième, je
clairement,
crois.
si à un moment il se dit, soit je le vois pas se dire, tiens, je tente le tout pour le tout, mais il faut que je gagne. Enfin, il va jouer sa carte. En fait, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que Mats Pedersen soit quand même assez rétabli pour se dire vraiment je veux gagner cette course, je suis en forme, je me sens bien et finalement je vais y aller. Et là il peut faire bouger son équipe de loin, tenter des choses et être un vrai adversaire à Mathieu Van Der Poel, parce que Pedersen il fait troisième l'an dernier, en 2018 si je dis pas de bêtises il fait deuxième, donc ouais. Les places d'honneur sur le rond il les a s'il fait encore deuxième du Tour de Flandre. Alors je pense pas qu'il sera malheureux, mais lui ce qu'il veut c'est la victoire, et j'ai l'impression qu'à part Van Der Poel c'est le seul qui ne se satisfera que d'une victoire. Mais derrière ouais bah on en parlait, un Valentin Madouas c'est pareil, s'il fait deux, c'est pas lui, enfin voilà, Stéphane Kung s'il fait deuxième il sera très content aussi, donc en fait là où t'as ouais. raison, c'est que à partir du moment où ils se disent ok il nous a mis deux mines là, on est encore avec lui mais on sent que ça va être dur et il est très très fort, attends moi je vais pas m'épuiser à essayer de faire le fou et d'aller gagner, parce que derrière je sens que les autres mecs je peux les taper et quand même finir sur le podium du Tour des Flandres. Donc tandis qu'on est sûr qu'un Wout Van Aert voilà il aurait pas pu se dire je finis que deuxième, c'est pas possible. Il aurait lutté, donc ouais, c'est un peu la crainte. Donc effectivement, dans ce sens-là, t'as raison. Van Der Poel doit faire ça, à mon avis, d'autant qu'il a pas non plus une équipe exceptionnelle. Et par contre, c'est peut-être là tout l'enjeu justement, cette équipe qui est pas exceptionnelle de ce Tour des Flandres, c'est voilà finalement en fait, Alpecin de Koenig, ils peuvent se rapidement se trouver isolés et Van Der Poel rapidement tout seul face à d'autres équipes. Vraiment, en tout cas, ça va être tellement l'ultra favori que. Qu'à mon avis, tout le monde va être un petit peu contre lui. Donc, c'est le scénario finalement qu'on. Bon, peut-être qu'on idéalise ça, et peut-être que sûrement le scénario que tu as donné, il va se produire avec Van Der Poel qui attaque à 50 km de l'arrivée dans la deuxième ascension du Coirmont, et puis derrière, finito pipo. Hein. Mais dans un deuxième scénario, on est un petit peu optimiste, effectivement. Ça envoie du Tish Benoît, du Dylan Van Baarle. Alors, même si je les trouve pas vraiment impressionnants cette année, je sais pas si s'ils partent devant, ça ferait vraiment peur à Van Der Poel, mais voilà, du Asgreen qui se retrouve un peu, ce type de coureur-là, et Van Der Poel est obligé de chasser tout seul parce qu'il a plus d'équipiers derrière ses coureurs. Et d'autres pourraient en profiter, mais ouais, je sais pas. En tous les cas, à mon avis, l'équipe. Franchement, tout va dépendre quand même de la forme de Jorgensen, j'en doute pas. Et surtout de Mats Pedersen. C'est sûr qu'un Mats Pedersen qui est vraiment diminué, ça va. Bah voilà, ses équipiers, ils vont pas forcément partir de loin parce que ce seront eux, du coup, les leaders et ils vont pas tenter de mettre Pedersen en difficulté en durcissant la course. Mais par contre, du coup, voilà, un Mats Pedersen au top, ça peut envoyer du Tom Skuins, du Jonathan Milan devant et ça peut faire bouger Van Der Poel qui serait sans équipier. Donc on peut vraiment essayer de rester positif et de se dire que ce scénario peut être intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que j'espère pour cette course, parce que même si je suis fan de Mathieu Van Der Poel, c'est vrai que bon, s'il part à 60 km de l'arrivée et que derrière on essaye même pas de lui prendre la roue, qu'on peut pas, ben voilà, forcément ça aura moins de saveur du coup que s'il y avait la grosse bagarre. Donc ouais, mais si je suis néerlandais, effectivement, je montre tout de suite qui est le patron et je casse le moral de mes adversaires, comme tu l'as dit.
Selon toi, comment est-ce que la Visma, va gérer la nouvelle physionomie de l'équipe avec Jorgensen en leader? Clairement, c'est le plus fort des sept coureurs qui seront alignés. Est-ce qu'ils vont vraiment faire un tout pour Jorgensen et on le protège comme si c'était Van Aert? Ou alors on donne plus de liberté à Tratnik, Ilermi, à Van Baarle ou à Benoît, et puis Jorgensen, il essaie un peu de suivre derrière avec sa forme du moment. Comment est-ce que tu vois la Visma s'adapter du coup au petit traumatisme quand même qu'elle a vécu hier?
Bon, en fait, pour s'adapter, ça dépendra du niveau des coureurs. Mais Yann Tratnik, il est fantomatique depuis quelques semaines. Il est pas à son niveau, j'ai l'impression, du début d'année. Je crois qu'il a chuté.
Je crois qu'il était malade aussi.
Ouais, malade. Enfin, ouais. Voilà. Donc, ouais. Van Baarle, finalement, je viens de voir qu'il sera présent, mais il sort de maladie. Il a fait aucun résultat depuis le début de l'année. Donc, je sais pas, moi, je serais à la place de la Visma. Oui, bah, tu peux te permettre d'envoyer des mecs devant, un Tish Benoît par exemple, mais Tish Benoît, il est en moins grande forme que l'année dernière. Tu vois quand même que même s'il est très fort, là, il est à la limite sur le final d'à travers les Flandres, etc. Donc, ils ont toujours les à mon avis, enfin voilà, ils peuvent envoyer des mecs devant. Toujours est-il que Jorgensen, lui, sa course sera calquée sur celle de ses adversaires les plus proches pour le podium, et je le vois en aucun cas tout tenter très loin de l'arrivée. Et d'ailleurs, je pense qu'il peut très bien se révéler sur cette course et être le principal challenger de Mathieu Van Der Poel, parce qu'il est quand même très très fort. Moi, c'est celui que je vois. Si tout dépend de l'état de forme de Pedersen, mais derrière Jorgensen, On dit que des fois que le malheur des uns fait le bonheur des autres, bah voilà, cette chute et ce malheureux forfait de Wout Van Aert, bah peut-être qu'on va avoir encore une fois la révélation Matteo Jurgensen et que il va réussir à tenir Van Der Poel très très loin. Et voilà, on n'est pas du tout à l'abri non plus d'un scénario où Van Der Poel craque en 2021, personne ne s'attendait à voir Kasper Asgreen le battre, etc. Donc c'est le favori logique, mais moi je courrais quand même si j'étais la Visma pour en envoyant des pions devant et Jurgensen qui suit le plus possible, le plus loin possible Mathieu Van Der Poel. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire parce que ça sert à no... enfin en fait ça sert à rien de rester aux côtés de Jurgensen quand tu sais que Jurgensen il va essayer de suivre Van Der Poel quand il va quand il va attaquer et enfin derrière Benoît Van Barl et Tratnik dans un groupe à une minute derrière ils n'auront pas servi à grand chose de la course. Et l'année dernière d'ailleurs les Visma ils avaient juste mis Van Hooydonk devant et on se rend compte que tout le reste de l'équipe il avait été assez peu utile sauf la porte une dizaine de kilomètres à
oui,
Van
Aert. Oui,
donc pour qu'ils soient utiles vu comment ils sont moins fringants il faut les envoyer devant à partir du Molenberg à 90 kilomètres de l'arrivée. Moi je pense que c'est ce qu'ils devraient faire, c'est ce que j'espère, ce qu'il y aura, enfin voilà, j'espère vraiment qu'il y a ce groupe de costauds qui va sortir dans le Molenberg comme l'année dernière et qui peut créer un petit peu d'incertitude face à Mathieu Van Der Poel.
Moi, je vois bien aussi enfin, je parlais de la Soudal Quickstep tout à l'heure, mais un peu un scénario surprise ou qu'on a plus l'habitude de voir sur Paris-Roubaix certaines fois. Mais bon, ça peut arriver. Mais Mathieu Van Der Poel peut avoir une mauvaise journée, il peut avoir un incident aussi. On sait que sur ces courses, ça arrive. Et je vois bien un scénario un peu complètement fou avec aussi une possibilité de plus en plus grande d'avoir un vainqueur assez inattendu, soit un jeune coureur qu'on a vu un peu briller, c'est des courses qui lui correspondent, il sort devant, je sais pas, un profil à la Fred Wright par exemple, où il profite de circonstances de course énormes pour aller alors claquer ou faire un podium avec un scénario de course assez dingue, sachant que que la responsabilité de la course va reposer que sur Alpecin et que c'est une course qui reste très très dure à contrôler, surtout qu'ils ont une bonne équipe, mais c'est pas non plus une équipe qui sur le papier écrasera tout le monde. Et je pense qu'il y a des coureurs qui auraient intérêt à anticiper et puis à essayer de profiter de ça. On a vu, je pense qu'à la Groupama FDJ, ils peuvent avoir des coureurs comme Laurent Spiti qui pourraient profiter de ça. Kung et Madois c'était plutôt en jambes sur À travers les Flandres hier, donc il n'y a pas de raison qu'il soit pas à un très bon niveau dimanche aussi. Et je me laisse un petit peu à rêver un scénario un peu fou d'un Tour des Flandres qui finalement partirait totalement en vrille et offrirait un vainqueur surprise. Voilà, on a vu un Jonas Abrahamsen par exemple, deuxième sur À travers les Flandres, qui fait un bon début de saison de classique, et je me dis pourquoi pas, c'est peut-être l'année où il peut y avoir une grosse surprise. Il y en a beaucoup plus rarement sur le Tour des Flandres, mais on sait que ça arrive. Donc voilà, avant de conclure, je voulais amener un petit peu cette hypothèse. Je te laisse me dire rapidement ce que t'en penses avant qu'on se quitte.
Bon, moi j'y crois beaucoup, mais pour Paris-Roubaix, je pense que le Tour des Flandres c'est quand même une course très difficile. Et tu sais, on n'est jamais au bout de nos surprises comme sur les grands tours où tu vois, tu te dis putain, ils sont isolés, l'équipe du leader, et en fait, tu commences à voir d'autres formations venir rouler. Je serais pas étonné qu'on se dise tous contre Alpecin de Koenig, et finalement, tu vois l'échappée matinale qui a encore à 90 km de l'arrivée 6 minutes d'avance et un petit trek par-ci, un petit Visma par-là qui au lieu d'attaquer commence à rouler en tête. Enfin,
Van Der Poel, il peut dire, bah attendez les gars, moi j'ai déjà gagné deux fois la course. Je pense qu'il a très envie de la gagner en tant que champion du monde, mais il peut jouer de ça aussi pour inciter d'autres équipes à rouler. Et puis après, ça pourrait être mettre un gars comme Philipsen, ça peut être compliqué, mais un Sylvain Dillier, un Craig Andersen à l'avant, on ne sait pas ce que ça peut donner aussi. Un Jenny Vermeersch, ça peut être un atout pour lui.
Ouais, bah écoute, on verra. En tout cas, moi j'ai envie de dire, voilà, je suis très triste pour que cette chute ait éliminé des grands favoris, notamment Wout van Aert. Maintenant, c'est comme ça, donc faut essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire que voilà, on aura quand même une belle course ce dimanche et que voilà, peut-être que ça peut donner à l'idée des scénarios surprises et un Mathieu Van Der Poel plus isolé que finalement s'il y avait eu d'autres très grands noms en forme à côté de lui. Donc voilà, je pars dans cette optique. Est-ce que t'as un petit prono, toi, du coup, pour un nouveau pot. Parce que du coup, nos pronos de podium, ils marchent plus trop, là. Parce
Il
qu'on
marche
avait
plus
tous
trop,
Van
alors
Aert, je
du
crois,
coup
dans
faut
le chrono.
redonner un podium. Bon, je vais rester sur Van der Poel parce que je pense quand même qu'il va exploser la course de très loin et que tout le monde va vite se battre pour la deuxième place. Kung m'a beaucoup rassuré, j'en avais un petit peu parlé sur notre preview, donc je vais le mettre sur le podium. Qui est-ce qui pourrait l'accompagner sur le podium? Allez, Abrahamsen, j'en ai parlé tout à l'heure, grosse cote.
Eh ben ouais, bah moi écoute, moi je pense que Abrahamsen, on en reparlera dans la preview de Paris-Roubaix, effectivement, je pense que c'est un coureur qui pour le coup peut bien briller. Moi j'ai envie de dire Mathieu Van Der Poel, forcément, devant Matteo Jorgensen, et allez, je sais pas, je le sens bien finalement, je le sentais pas du tout il y a 2 jours lors de la preview, mais j'ai envie de parier sur une course débridée, et du coup il serait plutôt bien placé, parce qu'il n'y aurait pas de gros peloton Valentin Madouas qui irait rechercher un podium, voilà, sur ses qualités d'endurance, sur cette course. Donc, allez, un peu d'optimisme pour les Français et un Valentin Madouas en bleu, blanc, rouge qui sera sur le podium
Ah,
dimanche.
ce serait beau. Il est totalement capable de nous sortir une grosse, grosse course. En tout cas, son début de saison n'était pas du tout rassurant, mais là, ce qu'il a montré mercredi, moi, j'ai
Ouais.
trouvé costaud dans le groupe derrière. Il pouvait pas faire grand-chose parce que Kung était devant.
Ouais, et puis Stéphane Kuhn qui sera également là pour le podium, mais qui sera le dindon de la farce, malheureusement, comme d'habitude, et qui terminera quatrième ou cinquième, le pauvre. Voilà, il est très fort, malheureusement, il manque toujours du punch et il manque toujours un petit truc pour Stéphane Kuhn, qui est un super beau coureur, mais ouais, ce sera dur pour lui d'en décrocher un jour une très belle, parce que ouais, il en manque toujours
Faut
un.
arriver tout seul. Faut arriver
Voilà,
tout seul.
exactement.
Merci beaucoup, Titien, du coup,
Bah,
pour
merci à toi.
cette update. On souhaite bien évidemment un très bon rétablissement aux coureurs qui ont été touchés par cette chute et forcément en particulier à Wout van Aert parce que c'est lui qui a été le plus durement touché. On espère de tout cœur le revoir rapidement sur le vélo et le voir sur le Giro dans la meilleure forme possible et qui fasse briller ce Giro comme il a l'habitude de le faire quand il est aligné au départ des courses et des grands tours notamment. Donc voilà, vraiment toute l'équipe de Radio Fringale pense voilà, souhaite un bon rétablissement à tous les coureurs et c'est pas parce qu'ils sont en convalescence qu'il ne faut pas penser à s'alimenter parce que forcément c'est comme ça qu'on récupère également et pour ceux qui font le Tour des Flandres pensez à vous alimenter et à boire toute la journée surtout si ça part de loin et que certaines équipes voire certains coureurs font tout péter à plus de 100 km de l'arrivée. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci Titien encore. Et puis à la prochaine, à très bientôt pour débriefer ce round. Ciao, ciao!
Bisous, ciao les copains.